Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en direct des studios de Radio IMO pour un nouveau numéro du MAG de l'IMO. Alors si vous avez loupé la première heure, eh bien pas de panique. Hein. Toutes les chroniques, toutes les interviews peuvent être retrouvées dès à présent en podcast sur notre site radio.imo, sur nos applications, sur tous vos agrégateurs de podcasts. Mais je vous conseille de ne le faire qu'à partir de 9h, puisque d'ici là, eh bien, nous allons pouvoir dire bonjour à notre grand témoin du jour, qui s'installe gentiment. Il est avec nous. Je dis avec nous d'ailleurs parce que je vais quand même en profiter pour resaluer Fabrice Coustet. Rebonjour Fabrice.
Oui, bonjour Johanna, bonjour à tous et ravi d'accueillir notre invité, voilà, un architecte. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu sur le plateau.
Roberto Baltazar est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous venez tout droit d'Argentine, mais vous êtes basé en France. On va voir un peu comment vous êtes arrivé là. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre cabinet ?
Oui, tout à fait. Alors mon cabinet, c'est un petit cabinet qui a été moyen, qui est redevenu petit, volontairement d'ailleurs. Et on est dans un quartier proche d'ici, puisqu'on est rue Saint-Martin aujourd'hui. Donc on est voisins, tout à fait par hasard. Et on travaille sur tous les sujets. On n'est pas spécialisé dans un sujet en particulier. Et ce cabinet est composé par des gens très différents. On est 6 personnes aujourd'hui. On est indépendants. Et chacun fait son métier dans un groupe et dans l'idée de pratiquer le geste de réunion, qui pour nous signifie avoir des idées différentes et se réunir autour d'un sujet. Et pour mettre toutes les compétences ensemble et puis famille de travail, un peu comme une tribu. Voilà.
Ça veut dire quoi? Que finalement, chacun a son domaine d'expertise, sa spécialité,
voilà, tout
et tout le monde est complémentaire?
Voilà, exactement. On a quelqu'un qui s'occupe du domaine culturel, qui est un peu un inventeur, quelqu'un qui nous apporte énormément de choses, qui est un ami d'ailleurs, on est des amis et des amis de travail. On est deux architectes. Ma collègue, elle est designer aussi. Elle a fait l'école de Glasgow. Elle a fait l'architecture intérieure au début. Quand on s'est rencontrés, je l'ai amenée vers l'architecture tout court. Enfin, et elle parlait même pas le français. Et elle est devenue architecte en France. En fait, elle est anglaise.
Voilà. On peut dire son nom ?
Oui, elle s'appelle Bethan Davis.
D'accord. Parce qu'on voit qu'en allant sur Baltazar, donc Building Workshop, c'est comme ça que vous l'appelez, donc un véritable atelier, on voit qu'il y a beaucoup d'influence, on le voit à travers l'équipe. Donc vous, d'origine argentine, Bethan Davis, donc anglaise, Gilles de Bismont aussi, pôle culturel.
Oui, tout à fait.
Lui, il est d'où ?
Alors lui, il est français, depuis d'ailleurs beaucoup de générations, c'est comme son nom l'indique. Et il vit à Paris, dans le 6e arrondissement. Hein. Et on se connaît depuis très longtemps maintenant, plus de 20 ans. On a fait beaucoup de choses ensemble dans cette expérience de découvrir un petit peu ce qu'était l'architecture. Pour nous, c'était nouveau. Moi, je n'ai pas d'architecte dans ma famille. Je suis né dans un pays qui était en pleine guerre civile quand je l'ai quitté, et d'où l'Argentine. Mon père était un ancien combattant, d'ailleurs, de 39-45, qui a émigré après la guerre là-bas. Il avait des difficultés à vivre avec une France divisée. Et il se retrouvait dans un conseil municipal de son petit village où il y avait des gens qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie. Et donc, c'était des parties d'escrime permanentes. Et un de ses meilleurs amis, qui est devenu maire de la ville de Luchon, où il est né, lui a conseillé de partir provisoirement. Et puis, ça a été un départ définitif, en fait, avec un travail qu'il a fait pour la DGSE, pour différentes choses qu'il a fait en Argentine. Et puis, il a fait des affaires, enfin, il a fait des enfants. Il a rencontré une Argentine, donc voilà ma brève biographie personnelle.
C'est incroyable.
D'accord, un mélange donc sud-ouest la France et Argentine.
Et Argentine, en Argentine, il faut savoir qu'il y a beaucoup. C'est un pays d'immigration, comme les États-Unis, il y a le pire et le meilleur. Hein, l'Argentine a donné 70 000 passeports à l'époque à l'état-major nazi pour s'évader. Un petit peu avant la guerre, et il y avait le général Perón qui dirigeait le pays à l'époque, et avec une, je dirais pas avec une main de fer, parce que voilà, il offrait les poulets dans la place de Mai, enfin pas dans la place de Mai, c'était devant le l'école de, enfin, l'université de droit. Il avait décrété la Saint-Péronne, c'était un bon démagogue. Il avait fait l'école du Facio chez Mussolini en Italie. Mm-hmm. Donc voilà le profil de l'Argentine à l'époque où mes parents se sont rencontrés. Quoi.
Ouais. Bon, pas évident pour votre père. Hein. Donc il fuit, si on a bien compris, des conflits post-guerre et qui se retombent.
Ouais, il fuit pas. Il voulait rester, lui. Le problème, c'est que, pour tout vous dire, quand la guerre est terminée, on a démobilisé les troupes. Et lui, il était rentré dans le sud-ouest de la France et pour régler ses comptes avec le chef de la police de la Haute-Garonne, qui s'appelait Fourcadette, en fait, et qui avait dénoncé sa famille, qui avait été arrêtée par les Allemands à l'époque. Et lui devait... Son père a été dans un camp dans l'Ariège. Et donc, il est arrivé dans le lieu où il voulait retrouver ce Fourcadette. Qui avait dressé des listes avant l'occupation de la deuxième partie de la France, puisque la France, elle a été occupée en deux fois. Donc, mon père était très jeune à l'époque. Et donc, quand il est arrivé sur les lieux, la police militaire l'a arrêté. Il l'a fouillé. Il avait gardé une arme sur lui. Et donc, on lui a demandé ce qu'il venait faire avec ça, etc. Et lui, il s'est expliqué. Et on lui a dit, mais quelqu'un a fait le travail à votre place. Et c'est là où la guerre est finie maintenant. Devait
passer à autre chose.
Même si vous avez du mal. Et puis, dans toutes ses réflexions avec ses amis, etc., il avait lu des bandes dessinées sur l'Argentine aussi. Donc, il avait un peu un rêve par rapport à ça. Il est parti. Voilà. Donc, il a rien fui. En fait, il s'est abstenu. Non, c'est important parce qu'il y en a qui ont fui la France au bon moment pour ne pas se retrouver face à leurs responsabilités, si vous voulez.
C'est pas ce que je voulais dire, effectivement, mais c'est bien d'avoir expliqué. Alors, on en revient à vous. Donc, vous êtes né en Argentine.
Je suis né en Argentine.
Vous avez la double culture, la double nationalité également.
Tout à fait.
Bon.
Et je suis parti donc d'Argentine et je suis venu faire mes études en France. Il fallait que je fasse un choix aussi à un moment donné, puisque le pays vivait une période de violence. C'est juste après cette période... C'était les années 78, le mondial de football, etc., qui ressemblait à quelque chose qui devait masquer une situation en Argentine qui était autre. Et donc, j'ai fait le choix entre partir ou rester et rentrer dans un conflit où il fallait changer le monde dans lequel je vivais. Et j'ai préféré partir pour continuer mes études et construire au lieu de rentrer dans la tradition familiale de la guerre, quoi.
Et l'architecture était déjà dans votre tête ou ça s'est fait un peu par hasard ?
Ça s'est pas fait. Oui, ça s'est fait. C'est un peu une histoire parce que le père de mon meilleur ami était architecte. Il avait travaillé dans l'atelier de Le Corbusier et il était devenu à l'époque où moi je fréquentais mon meilleur ami d'enfance. Il était devenu ministre de l'urbanisme et directeur de la banque hypothécaire en Argentine. Et c'était quelqu'un d'injoignable, qui n'était jamais là. Mais de temps en temps, on croisait des conversations. Et dans l'une de ces conversations, je lui avais demandé pourquoi il faisait de la politique alors qu'il était architecte. Et lui, il m'a dit, je ne suis pas tout à fait architecte. Je suis architecte, mais urbaniste. Et dans le pays où on vit aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'urbanisme, il faut avoir dans une main l'accès aux finances et dans une autre main l'accès à la politique. Parce que les projets sont très longs. Et sur 20 ans, on ne peut pas travailler sur un système improvisé. Et puis je lui avais demandé qu'est-ce qu'il fallait pour être architecte, parce que ça m'intéressait du coup, à travers son personnage et les choses qu'il avait faites. Il avait dessiné le plan régulateur de la ville de Quequén et Bariloche aussi, dans le sud de l'Argentine. Il m'avait montré ses plans et les premiers dessins qu'il avait faits dans le cabinet de l'agence de Le Corbusier à Paris. Et donc, je lui ai demandé s'il fallait être mathématicien, connaître bien les mathématiques, le dessin, etc. Et lui, il m'a répondu non, ça, on peut le faire à l'intérieur de son équipe, il y a des gens pour tout. Et puis, je lui ai posé plein de questions comme ça, est-ce qu'il faut savoir dessiner très bien ? Il m'a dit, je ne sais pas, on peut dessiner aussi, on peut utiliser la parole, le texte, les collages, enfin plein de choses. Et pourquoi tu me demandes tout ça ? Et j'ai dit, mais je voulais savoir quel est l'essentiel. Et donc, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, est-ce que tu aimes les gens ? Est-ce que tu aimes les autres ? Et je lui ai dit, oui. Est-ce que tu penses que la nature humaine est bonne, à fréquenter, etc. Et moi, je lui ai dit, oui, je pense, oui, tout à fait. Et donc, il m'a répondu, mais tu serais un excellent architecte, alors. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Et il me dit, non, mais comme ça. Et dans la même conversation, il m'a demandé, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, que les gens sont des gens bien, que l'humanité est une espèce à fréquenter. Et pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que c'est un homme honnête pour toi? Et moi, je lui ai dit, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Je lui ai donné ma définition de l'époque, j'avais 12, 13 ans. Et lui, et je lui ai dit, mais pourquoi c'est, je me suis trompé? Il riait quand je répondais, comme une personne âgée, quand il parle avec une longue barbe blanche, qui habille en noir en face de moi. Et donc, je lui ai pourquoi, c'est pour toi, c'est quoi une personne honnête? Mais pour moi, une personne honnête, c'est une personne honnête jusqu'au jour où il cesse de l'être. Donc on voyait bien le profil de quelqu'un qui était en politique aussi. C'est les architectes de l'Amérique latine, c'est un peu ça. Lui, il était fils d'une indienne colombienne et d'un Suisse qui avait émigré en Argentine.
D'accord. Et... Du coup, ça a façonné aussi déjà votre façon de... Votre approche, tout jeune, vous êtes dit, bon, bah, il n'y a pas besoin peut-être d'être un très très fort en maths, très très fort en dessin. On peut imaginer, même ceux qui nous écoutent, hein, c'est pas évident. Ouais, ouais. Il faut aimer les gens, c'est ce qui ressortait.
Oui, il faut aimer les gens. L'architecture est une aventure humaine, en fait. C'est ce qui a été, c'est ce qui m'a permis de. D'ailleurs, j'avais plusieurs pôles dans mon éducation. Ma mère elle avait fait trois doctorats, un doctorat en philosophie, un autre en histoire et un autre en littérature. Et moi, je voulais faire des études de littérature à l'époque et de philosophie. Et l'université de philosophie était contrôlée par les militaires et c'était très compliqué quand je devais démarrer mes études. Donc je me suis retrouvé à lire le codex Atlanticus de Léonard de Vinci sous un arbre dans la cité universitaire où les portes étaient fermées provisoirement par les militaires. Donc je rêvais de... Je me demandais ce que j'allais faire vraiment. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et je concevais très mal de faire une discipline qui ne réunisse pas plusieurs grilles signifiantes.
D'accord.
Donc, ouais, voilà. Pour moi, il fallait... quelque chose qui puisse satisfaire ma...
On comprend du coup que ce n'était pas quand même les conditions idéales pour étudier, pour commencer. Comment s'est passée votre arrivée en France?
Mais pour moi, c'était une porte de salut, parce que d'abord, je rejoignais une moitié de ma culture. Moi, je suis français de naissance, en fait, puisque le droit du sol, c'est très argentin, mais en France, c'est le droit du sang et puis l'ascendance qui est importante pour déterminer la nationalité. Autant dans son caractère symbolique que dans le caractère direct, littéral.
Quoi. Bien sûr.
Et moi, je suis arrivé ici après une période difficile. Enfin, j'ai un parcours universitaire aussi accidenté, puisque j'ai commencé par faire des études de géologie et de biologie à la cité universitaire. Je ne sais pas pour quelle raison, je m'étais fait l'idée qu'il fallait connaître la Terre, comment le globe terrestre était fait, avant de faire des études d'architecture.
Ah oui, c'est un chemin un peu...
C'est pas très, très
donc commun. Donc vous arrivez à la cité universitaire, à Paris?
Non, la cité universitaire à Buenos Aires.
À Buenos Aires, ok.
Voilà, à Buenos Aires. Je participais à des mouvements étudiants, à l'époque, contre le gouvernement d'extrême droite qu'il y avait en Argentine, militaire. Il y avait trois armées qui s'étaient mises ensemble pour gouverner le pays. L'armée de terre, ils appelaient ça la triple A en Argentine. Et ça me faisait drôlement penser à ce que mon père avait vécu, à la chose que ma mère racontait pendant la guerre. Et donc je ne voulais pas prendre la même décision, je ne voulais pas faire la guerre. Je voulais pas, et puis il y avait des amis qui prenaient des armes à l'époque, qui m'invitaient à... Et je me suis dit non, moi je vais faire des études, je vais... me battre, mais avec des armes pacifiques. Voilà, c'était mon but. Et j'ai vu... un jour, j'étais à l'université, j'étais en train de m'inscrire, et j'ai vu une fille qui se faisait bousculer par les forces de la police parallèle à l'entrée de l'université. Et j'ai pris sa défense, et donc ils m'ont enfermé dans des toilettes qu'il y avait à côté. Ils voulaient me taper dessus. Moi, j'ai toujours fait du karaté, parce que dans ma famille, c'est comme ça. On est trois garçons, et on nous a appris à se battre très petit. Et donc je me suis battu avec eux physiquement et je me suis échappé. J'ai pris le dessus et je me suis échappé en faisant sortir cette fille qui a été récupérée par son copain. Et puis j'ai appris qu'on me cherchait. Donc je suis allé raconter tout ça à mon père qui était chez moi, parce que je rentrais chez moi. Et lui, chose que j'ignorais, il avait de très bons rapports avec l'ambassade. Enfin, mes copains me disaient que c'était un barbouze, parce qu'il travaillait pour les services de renseignement à une époque, ou je sais pas. Mais en tout cas, il m'a bien aidé. Je n'ai pas su comment et pourquoi. J'ai mis très longtemps après, quand il est mort, j'ai appris plus sur la vie de mon père en lisant ses notes, etc. Qu'il avait laissé dans un coffre d'une banque, avec les notaires et tout ça. Mais bon, pour être plus bref par rapport à cette histoire de comment je suis arrivé en France, et on m'avait pris j'avais un diplôme de mon lycée français de Buenos Aires, parce que je fais des études au Jean Mermoz, le seul lycée que De Gaulle a décidé de créer en Argentine, à Buenos Aires. Et j'avais plus de papiers, ils m'ont confisqué mes papiers aussi, parce qu'il y avait eu un contrôle d'identité avant. Et je me suis dit comment je vais faire, etc. Et donc, du coup, j'ai passé une année presque sabbatique où cette situation a été arrangée par l'intervention de mon père à l'époque. Et puis, j'ai décidé de partir à ce moment-là. Mais il fallait que je prépare mon départ. Donc, j'ai commencé des études d'architecture dans une école privée, puisqu'à l'école publique, je ne pouvais plus rien faire. Je n'avais pas les moyens de travailler paisiblement. Enfin, et puis tout ça, tout était contrôlé. L'université était surveillée, etc. Et donc j'ai fait 4 années d'architecture dans une université qui s'appelle la Universidad de Belgrano, qui est l'université de Belgrano, en fait. Et j'ai passé un premier diplôme. Et je suis parti avec ce diplôme à travers le Brésil, où j'ai travaillé pour l'Organisation des États américains dans l'aménagement de zones de peuplement non réglementées. C'est le premier travail par des relations à moi.
C'est votre premier boulot, finalement.
Premier boulot, qui était un travail pas très bien payé, mais une expérience extraordinaire, parce que je travaillais avec la population, une population qui devait être déplacée par l'État, et cette organisation, qui était une espèce d'ONG, se chargeait de dialoguer avec les gens pour pas qu'ils se fassent expulser, en fait. Il fallait leur trouver, un cadre meilleur, et laisser sur place ce qu'on pouvait laisser sur place, et puis déplacer. Et à la fois, on avait la contrainte du gouvernement qui voulait carrément évacuer la zone, et puis cet organisme qui cherchait à retisser la structure humaine, sociale, humaine qu'il y avait dans les lieux. Et de là, je passais 6 mois là, et puis je me sentais prêt pour venir en France, et donc avec mes dernières économies, j'ai atterri à Charles de Gaulle.
Qu'est-ce qui vous a décidé? Pourquoi vous vous êtes dit c'est maintenant?
Mais parce que, d'abord, je voulais connaître le Brésil avant de quitter l'Amérique latine. Mon père avait été rentré par le Brésil. Son premier poste était au Brésil. Et il m'avait pas mal parlé du Brésil. Moi, quand on est petit, on écoute surtout ses parents. Et puis j'ai fait une expérience assez très belle au Brésil. Et qu'un jour, je ferai quelque chose dans ce pays, certainement. Ça m'a permis de voir ailleurs, chez moi, quelque part. C'est un peu comme un agora, enfin, une antichambre. Voilà. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait pour les laboratoires Mérieux. C'était une époque où il a introduit le vaccin contre la rage. Et je parlais avec lui la semaine dernière au téléphone. Il a 95 ans. Et c'est chez lui que j'ai séjourné. C'était un ami de la famille. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Il est français, expatrié au Brésil. Et lui, il m'avait aussi conseillé de partir. C'était une période, il m'a dit, maintenant, tu as 10 années ou 15 années, et peut-être plus en Amérique latine, où ce sera très compliqué de travailler, de faire plein de choses. Et puis, j'avais envie surtout de rejoindre ma famille française, parce que j'avais une famille française que je n'avais jamais vue. Des cousins, finalement, j'ai intégré partie de l'identité de la famille qui était parsemée un peu partout, comme il y en a dans beaucoup de diasporas où les gens se retrouvent dans des villes différentes et ne se connaissent pas finalement. Parce que
surtout quand il y a un continent d'écart, ouais, c'est pas évident. Avec la...
Et puis il y a un anachronisme dans le vécu aussi. On n'a pas vécu les mêmes choses.
Ah oui, clairement bien sûr.
Voilà ce que je peux dire de mon arrivée en France. Après, comment ça s'est passé en France? Ça s'est passé très bien.
Si vous voulez bien, Roberto, on va faire une petite pause et comme ça, on pourra parler de tout l'aspect français juste après. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute le deuxième titre de votre playlist. C'est Norah Jones, c'est Come Away With Me. Avant qu'on l'écoute, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur cette chanson? Rien que le titre vous fait sourire déjà.
Oui, c'est une chanson que j'ai qui était en toile de fond à plusieurs reprises quand j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui. Et pour moi, elle disait des choses qui représentaient ce qui se passait à ce moment-là. Elle vient avec moi, voilà. Je suis allé avec elle. Et voilà, maintenant j'ai 3 enfants et donc ça me fait sourire pour ça. Ça fait partie. J'ai mis des chansons qui représentent pas un goût musical en particulier, une esthétique, mais qui sont des chansons liées à du vécu, puisque je pensais que c'était plus intéressant pour ce reportage.
Et ça l'est. C'est un très bon choix. On l'écoute tout de suite. Norah Jones, Come Away With Me. Et puis on revient en plateau avec notre grand témoin du jour, c'est Roberto Baltazar.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
De retour en plateau pour ce Mac de l'Imo consacré à l'architecte franco-argentin Roberto Baltazar qui nous racontait son arrivée à Paris, un avion du Brésil, de Rio peut-être, jusqu'à Roissy Charles de Gaulle.
Oui,
c'était quand? On est en quelle année là?
C'était en 1981. Donc ça fait longtemps.
Ça fait quoi
40 ans.
Je ne vais pas dire de bêtises,
mais
40
si,
ans.
C'est facile, on vient de fêter
oui, on est en 2021.
Mitterrand, donc vous êtes arrivé au même moment.
Je suis arrivé pour la fête de la Rose, exactement. Ouais. que j'ai beaucoup apprécié et j'ai participé. Et pour moi, l'Europe, c'était une fête. C'était... Maintenant, il y a 3 enfants et un Covid de distance, mais... En tout cas, c'était, pour moi, c'était une grosse fête.
C'était comme vous l'aviez imaginé ?
Non, parce que moi, quand je pars ailleurs, quand je vais ailleurs, la notion d'ailleurs, pour moi, c'est découvrir. Donc, j'étais prêt à tout, je voulais savoir comment ça se passait. Mais c'est vrai que, vu avec le recul, c'était une drôle de fête à laquelle j'ai assisté. Je me souviens des personnages sur des échasses, la mise en scène de Jean-Paul Goude. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, voilà. Et c'était magnifique pour moi. Je dormais dans un squat, je faisais de la musique dans le métro. Je payais mes études, ma première partie de mes études comme ça. Je jouais la guitare et je faisais surtout de la percussion. Ce que je fais toujours dans mes moments libres avec mes amis de la musique.
On est quand même très très loin de l'architecte qui fait de magnifiques maisons aux îles Caïmans, là.
Je ne sais pas, parce que c'est toujours cette idée de comportement global, de réunion de plusieurs choses, plusieurs ingrédients pour faire un même gâteau. Moi, j'aime beaucoup je suis très, très fan du Bauhaus, du Stiege, le constructivisme soviétique. Je pense que l'architecture doit se mouvoir ensemble, dans un geste de réunion avec les autres disciplines. C'est ce qui fait un peu le noyau de notre cabinet d'architecte. Et je le pense beaucoup. Là, récemment, la dame qui s'occupe de nous en Europe maintenant, qui dirige la communauté européenne, elle a parlé de faire un revival avec le Bauhaus. Et elle veut réintroduire cette notion de mouvement global. Mmh. J'aimerais bien participer à cette chose-là. Je suis en train de m'en occuper en ce moment pour prendre des contacts et voir un peu comment on peut arriver à faire quelque chose qui soit peut-être pas de l'envergure de ce qui a été, puisque le passé nous a donné un exemple et on peut en créer d'autres. Je pense que c'est nécessaire. On a l'ordinateur maintenant, cet appendice magnifique du cerveau. Mais c'est vrai parce qu'on a spécialisé la connaissance et c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Jusqu'à Kant, en fait, une personne pouvait réunir toutes les compétences. Lui, il avait trouvé l'outil de créer 14 catégories pour classer les différents domaines de la connaissance. Et après, il y a eu le spécialiste du foie, le pneumologue en médecine, le cardiologue, et l'architecte d'EDF, celui du gouvernement à tour de rôle, etc. Mais en réalité, on n'a pas à se spécialiser. Ce qui nous permet de répondre à ce qui est nécessaire aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, mais c'est un bon exemple, puisque les 2 degrés, etc., les glaciers, tout est lié. On vit dans une horloge magique qui s'appelle l'univers, où l'infiniment petit est lié à l'infiniment grand. Et dans les métiers, il faut revenir à ça. Hein, Copernic disait qu'il faut se rapprocher de la nature. C'est elle qui peut tout nous apprendre. Mais il ajoutait, mais encore faut-il apprendre à parler son langage et respecter ses expressions.
On est proche de la philosophie des Lumières, hein, qui voulait un homme global, effectivement, qui connaisse l'homme savant, l'honnête homme, comme disait Montaigne, hein, qui connaît effectivement toutes les disciplines. Mais c'est difficile aujourd'hui parce que, comme vous le dites, il y a tellement de spécialités, on est allé tellement loin dans chaque connaissance que c'est dur d'avoir cette vision pratiquement universelle.
C'est ça, on s'est morcelé et on a perdu le tableau de bord, ce tableau de bord magique que l'univers nous offre tous les jours. Et quand on revient à ça, on revient à l'essentiel. On fait un enfant dans 9 mois, une fleur a besoin d'une quantité précise selon son espèce, de pluie, de temps qui passe, etc., pour avoir l'arôme qu'elle a, etc. Mmh. Aujourd'hui, nous, on a tellement spécialisé les choses qu'on démonte les jouets pour savoir comment, de quoi ils sont faits, et on ne peut plus jouer après.
Alors, comment ça se traduit, justement, cette envie d'universalité, puisque nous avons parlé de vos études, hein, c'était assez, effectivement, holistique aussi, philosophie, un peu de science. Comment ça se traduit dans vos travaux aujourd'hui ?
Ça se traduit dans nos travaux par la méthode qu'on emploie pour façonner un bâtiment. Aujourd'hui, on travaille sur un vieux colombier qui date du XVIIIe siècle, quand on est arrivé devant ce projet. C'est-à-dire que déjà, pour commencer à expliquer cette question, il faut savoir que nous, on travaille dans la rénovation, la restructuration, la création de choses à neuf, mais on ne considère pas que quelque chose sort comme un champignon d'une idée faite. On travaille toujours sur le préexistant, parce qu'on parle de la maison de l'univers. Donc cette maison univers, elle a permis aux hommes d'habiter dedans. On est assis sur l'une de ses branches, ou dans plusieurs de ses branches, qu'on s'affaire à couper tous les jours, hein, mm-hmm. parce qu'on n'est pas en train de s'attaquer à la nature. On s'attaque uniquement à la branche sur laquelle la nature nous a permis de nous asseoir. C'est-à-dire qu'on se suicide quelque part. L'inconscient collectif est malade aujourd'hui. Et je pense que nous, on se considère un petit peu, sans avoir la prétention de contrôler toutes les situations ou d'imposer à nos amis, nos clients et à nos partenaires, quand on fait quelque chose, on considère les personnes avec qui on travaille, qui ont besoin de nos services, comme des gens qu'on intègre dans notre famille pendant le temps de notre travail.
C'est pour ça que vous dites que vos clients sont aussi vos amis ?
Exactement, tout à fait. Quand c'est possible, non ? Mais de mon côté, c'est toujours comme ça. Parce que je pense qu'il y a deux côtés dans une relation, quand elle est, ou plusieurs côtés, si on est dans des relations multiples. Et dans les relations en général, il faut déjà avoir l'intention de... Et on peut aimer quelqu'un sans être aimé, et c'est pas interdit. Et moi, j'aime beaucoup mes clients et mes partenaires, dans le travail comme dans la vie. Je fais pas de différence, en réalité. Je pense que la famille humaine doit... Le geste de réunion, c'est le plus évolué que l'homme puisse produire. Et c'est en ça que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur Gandhi, pour tout ce qu'il a fait, et pour beaucoup d'autres gens qui sont moins connus et qui font la même chose tous les jours. C'est un peu ce qu'on fait maintenant. On est devant une table ronde et on parle ensemble de choses qui vont concourir à l'aspect positif et à la construction du monde, quelque part.
On peut dire sur votre site, le temps est la matière première de l'architecture. Expliquez-nous.
C'est de ça que j'ai commencé à parler tout à l'heure quand je parlais de l'univers. C'est-à-dire que l'univers est fait de cycles. On est à l'intérieur d'une... En fait, la Terre, c'est un navire. Et dans ce navire en mouvement, l'architecture produit les différents lieux où l'existence va se mettre en scène, si vous voulez. Et on oublie souvent ça. On dit le soleil se lève, le soleil se couche encore aujourd'hui. On n'a pas corrigé à l'école primaire, quand on apprend la langue, ou l'académie ne s'est pas intéressée à ce genre de sujet. On s'intéresse beaucoup aux étiquettes. On a inventé des mots parce qu'aujourd'hui, il y a la pandémie, donc on va inventer des mots. Se confiner, je ne sais pas, par rapport à l'utilisation du masque ou des mots anglais qui rentrent dans la langue. Mais on ne s'est pas préoccupé de la syntaxe ou de la sémantique de la langue où il y a des transformations qui sont indispensables. Le soleil ne se lève pas. Il faut dire la Terre a tourné, par exemple, comme font les Sioux ou les Esquimaux. Et c'est un architecte qui n'a pas appris ça, n'a pas appris la notion de cercle écologique dès sa première année. La première chose qu'il faudrait faire, déjà à l'école, en étant très petit, c'est savoir de quelle manière nous, on est en relation avec la Lune, avec le Soleil. Qu'est-ce que cette Terre nous apporte au-delà des conflits ? Parce qu'on est en train de se battre contre un géant qui s'appelle nous-mêmes, en fait. L'homme, c'est le homo hominis lupus, disaient les empereurs romains.
Et l'homme est un loup pour l'homme.
Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est encore c'est davantage vrai, en fait. Donc la matière première de l'architecture, c'est le temps qui signifie. Ça veut dire que c'est pas la géométrie, ce n'est pas ce qui est à la mode pour être vu pendant 15 jours ou pendant 3 ans. C'est pas la fonction non plus, ni le fameux discours qu'il y a eu, le débat qu'il y a eu au début de la naissance de l'architecture contemporaine entre l'architecture rationaliste ou expressionniste, etc. On peut parler aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. On peut comparer l'architecture de Saad avec celle d'un architecte rationaliste, voilà, Álvaro Siz, voilà, ou Santiago Calatrava qui s'occupe des formes. Il va chercher à réfléchir sur l'ossement des animaux, essayer de rapprocher qui est... Là, c'est plus intéressant parce qu'on est en train d'essayer de lier la nature à... Voilà.
Alors, justement, petit exemple, vous parliez de ce colombier du XVIIIe siècle que vous êtes en train de transformer. Il est situé dans le domaine de la hêtraie et c'est pour constituer une résidence secondaire. Donc là, il y a le passage du temps, justement, une vieille bâtisse, une forme octogonale, donc un beau monument dans un parc de 5 hectares. Là, quelle est votre approche, justement ? On laisse aussi le temps parce que c'est une transformation, donc on retravaille sur un ouvrage qui a été fait par des gens plusieurs générations auparavant.
C'est très intéressant, ça, de travailler avec des bâtiments qui existent. Moi, je m'étais intéressé beaucoup au travail de Carlo Scarpa, qui était c'est un Italien qui a fait les restaurations, pour moi, les plus intéressantes. Il a fait, par exemple, la restauration du Castel Vecchio, dans la ville de Vérone. Et il a fait une intervention moderne dans un bâtiment qui date du XIVe siècle. Donc Il y a une magie, ça existe partout. Même lorsqu'on a l'impression de planter un bâtiment dans un espace vide où il ne s'est rien passé, il y a quand même un environnement. Et il y a toujours ce soleil autour duquel on tourne. Il y a toujours ce qui a été avant que vous soyez là, même s'il y avait un bois, s'il y avait des arbres, s'il y avait un plan d'eau. S'il y a toujours un plan d'eau, ce plan d'eau a une histoire. La souche de la terre a une histoire, etc. Ce colombier, quand je suis rentré dedans... Il tombait en ruine, en fait. Oui. Je me suis aperçu que mes clients me demandaient de restaurer un bâtiment qui pouvait cesser d'exister à n'importe quel moment. Les fondations avaient été à l'époque, mal implantées, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, et il y avait de l'argile dans le sol. Il y avait 3 fûts de bois qui tenaient au centre une charpente conique, qui était magnifique, et qui est magnifique, toujours. On l'a gardée intacte, et... Quand je suis rentré dans un bâtiment, j'ai compris que la brique était gélive, elle partait en poussière, et que l'endroit était magique. C'était presque l'image de ce qu'il avait été, tout en étant ce qu'il était...
200 ans plus tard.
200 ans plus tard, voilà, tout à fait. Le toit était conique, avec un apothème de 9 mètres. L'apothème, c'est la ligne génératrice du cône. Et la charpente, elle m'a complètement fasciné. J'ai compris qu'on pouvait faire 3 niveaux. Et cette aventure a commencé, elle est en train de se terminer maintenant. Enfin, je parle par hasard de ce bâtiment, mais... Et je me suis dit, il faut conserver cette charpente. Alors, quand on isole un toit, voilà. Quand on isole un toit, normalement, on met du placoplâtre. Enfin, il y a des habitudes qui viennent de la production. La production du bâtiment, d'un bâtiment, est aussi marquée par la méthodologie qu'on hérite d'une époque et d'un système économique. Donc, quand vous m'interrogez sur la question du temps, quand on doit répondre à une question universelle comme celle de réinsérer l'homme dans cet univers qui permet son existence, on a des entraves parfois. Ça coûte plus cher de faire quelque chose. Moi, je voulais conserver cette charpente telle qu'elle était, telle que je l'avais vue la première fois. C'est comme un amour à première vue, si on peut garder cette image et la développer comme on cultive un jardin pendant toute une vie, c'est magnifique. Donc, tout le monde me disait, mais il faut isoler. Alors, je rencontrais des artisans, des compagnons du devoir qui venaient d'à côté, qui étaient venus voir la charpente. Ils m'ont dit, non, elle est bien, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous n'allez pas pouvoir la laisser comme ça parce qu'il faut l'habiller en placoplâtre. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas l'habiller en placoplâtre.
Alors, vous ne vouliez pas la cacher, finalement.
Je ne veux pas la cacher.
C'était le joyau.
Mais non, elle était faite pour être vue, d'ailleurs. Les colombes qui vivaient dedans et qui servaient de repas après.
Et qui en avaient besoin, bien sûr.
Voilà. Et elle regardait ça, et puis même le personnel qui venait travailler dedans, qui apportait la nourriture au roi dans le coin, ou à la noblesse qui pouvait bénéficier de ces colombiers, elle était fascinée par cette charpente. Donc je voulais que... C'est devenu une chambre nuptiale aujourd'hui, en fait, parce qu'on a fait une habitation secondaire, mais qui servira pour les couples qui veulent se marier dans un endroit extraordinaire. Et ça servira aussi à la famille qui en est propriétaire pour en faire sa demeure secondaire.
C'est où ?
C'est dans un petit village, tout petit, où j'ai obtenu le permis le plus rapide de toute ma carrière. Ça a duré un mois. Et le maire m'a dit, j'aime beaucoup ce projet. Ça va, c'est bon, vous pouvez déposer le permis. Et je lui ai dit, mais quand est-ce que je viens chercher, quand est-ce que je pourrais avoir ce permis pour pouvoir démarrer les travaux ? Mais je ne sais pas, là, je suis occupé ce week-end, mais je ne sais pas, moi, je vais m'occuper de ça la semaine prochaine. Et moi, j'ai pris ça pour une boutade. Mais un mois après, j'avais le permis. Et je me suis dit, je vais commencer à croire à nouveau au permis rapide de l'époque de Sarkozy.
C'est suffisamment rare pour être souligné, effectivement. Et c'est à Ecteau-l'Aubert, dans le 76, voilà.
Exactement. Et ça s'appelle le domaine de la hêtrée. Et pour les gens qui veulent se marier, c'est un endroit magique. Et c'est, franchement, bon, il ne s'est pas encore terminé, mais déjà le domaine est dédié un peu à ça. Et il loue les différentes parties de... Vous avez vu les bâtiments qu'il y a dans ces photos, c'est...
Voilà, les photos sont disponibles sur le site du cabinet, alors n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très très beau. Tout à l'heure, quand vous nous avez parlé de ce cabinet que vous avez fondé, je crois, en 89, c'est ça ?
C'est ça.
Vous nous avez dit, il a été petit, puis il est devenu moyen, et puis par choix, il est redevenu petit.
Oui, parce que je me suis retrouvé dans un espace critique où j'avais une vingtaine d'employés. Et je me suis dit, on est rentré dans une question administrative et la question de l'architecture est en train d'être reléguée au deuxième rang. C'était une période où je refusais beaucoup de projets, où les gens me demandaient de faire quelque sorte qui ressemblait à des maisons phénix, des toitures en bois d'allumettes.
Vous les refusiez juste parce que vous n'y croyiez pas, finalement ?
Je ne croyais pas, je ne pouvais pas convaincre. C'est des gens qui avaient la culture de ça. Il faut respecter la culture des autres, mais on n'est pas obligé de travailler avec eux. Et donc, heureusement qu'on est libre, cette liberté qui m'est très chère. Voilà. Puis j'avais fait prêter serment aussi, mais je l'avais fait très sérieusement quand je suis devenu architecte, de ne pas me compromettre, ni intellectuellement, ni moralement, avec ne pas compromettre ma liberté d'action, ni au profit des intérêts de mon client, ni à ceux des entreprises qui travaillaient avec moi, et voilà, ni à aucun système qui pouvait polluer de façon éthique ou intellectuelle mon travail. C'est ça qui est magnifique dans le métier d'architecte, quand on devient un chef d'entreprise. C'est pour ça que je suis un peu atypique dans votre émission, puisque je suis un indépendant, en fait. Je fais partie des petits-enfants de notre ministre, qui lui-même, pour une fois, il y a quelqu'un qui défend un petit peu notre profession. Les TPME, comme on nous appelle, je trouve ça mignon. Ça fait partie des les Français, ils adorent parler. Moi, je suis français, mais mon côté argentin est surpris lorsqu'il voit mon côté français utiliser des sigles pour dire des choses.
Des acronymes,
voilà.
Il n'y en a pas en Argentine.
Non, en Argentine, on dit les choses parfois trop brutalement, mais on est plus italien que français sur ce point. Voilà.
Puisqu'on parle de l'Argentine, vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez deux frères, c'est ça ?
Maintenant, j'en ai que un, parce que j'ai toujours dans mon cœur trois frères, mais il y en a un qui est décédé il y a un peu plus d'un an, qui est décédé d'une hépatite C en Argentine. Et c'est le seul qui est resté en Argentine.
Donc l'autre est venu, c'était la suite de ma question. Il y en a un qui vous a suivi finalement ou il est parti après vous ? On peut dire qu'il vous a suivi ?
Oui, il est parti après moi, il m'a suivi. Comment vous savez ça ? C'est bien. Il m'a suivi exactement. Je suis le pionnier. Voilà, sur un certain nombre de choses, c'est moi, mais c'est vrai que le départ, il fallait que je parte pour que lui y parte, sinon il ne serait jamais parti.
Et vous êtes construit une autre famille ici, puisque, on l'a dit, vous avez connu votre épouse, Sarah, c'est ça ?
J'ai connu Sarah, exactement.
Et vous avez ensemble trois enfants.
Exact, et après j'ai connu mes trois enfants, au fur et à mesure.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Mais oui, bien sûr. Alors, moi j'ai trois enfants, j'ai une fille qui s'appelle Alix, qui est une fille magnifique, un père ne peut pas dire autre chose de sa fille ou de ses enfants, et qui fait ses études au lycée international aujourd'hui, de Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai les boys, les deux petits, qui ont un écart d'âge avec Alix. Il y a 7 ans de différence, et Alix a 16 ans. Et après, il y a Luca, qui a 9 ans, et puis Camilo, comme Camilo Cienfuegos, qui est le plus petit. Et qui a 8 ans récemment.
Vous devez être bien occupé quand vous rentrez à la maison.
Je suis surtout bien entouré.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la famille le week-end, pendant les vacances ? On voyage, on fait du sport ?
On voyage, on fait du sport, on fait du cheval quand on a le temps et de s'occuper des chevaux, et puis on...
Un peu de polo, peut-être ?
Un petit peu de polo, oui. Mais ça, c'est surtout en Argentine. Le polo en Europe, c'est bien, mais il n'y a pas la même ambiance, en fait. Là-bas, moi, j'ai joué petit, j'ai joué au pateau aussi. Je ne suis pas le meilleur cavalier du monde. J'ai des copains d'école, s'ils m'entendent maintenant, ils vont se marrer. Mais eux, ils sont beaucoup plus des meilleurs cavaliers que moi. Et il y en a qui sont encore des joueurs professionnels qui font...
Alors ça, Johanna me l'avait dit, on reçoit un Roberto Salvador, un Argentin, tu vas voir, il va adorer le polo.
Mais oui, mais tous les Argentins aiment le polo. Quand les matchs de polo en France sont pleins d'Argentins.
En Argentine, c'est moins élitiste, je ne sais pas. Non, il est quand même élitiste parce que...
Tout le monde ne peut pas accéder quand même à un club.
Non, ce n'est pas pour ça, parce que le polo, la pratique du polo, tout le monde peut y accéder. N'importe quel, c'est souvent les meilleurs joueurs, c'est ceux qui ne vont jamais jouer sur un terrain professionnel. Moi, j'ai des jeunes garçons avec qui j'ai joué au pateau et au polo et qui m'ont appris des choses.
Le pateau, c'est quoi, du coup, par rapport au polo ?
Le pateau, c'est un peu l'ancêtre du polo. Je ne suis pas un historien de la chose, mais je pense que c'est un jeu qui a été introduit par les Afghans en Amérique latine, c'est eux, ils jouaient avec un canard. Donc le pato.
Ben oui, ça veut dire canard en espagnol.
Ça veut dire canard. Et après, c'est devenu une balle en cuir avec des arceaux de cuir qu'on peut attraper par le.
C'est pas plus mal, non?
Oui, voilà, tout à fait. Mais bon, il y a tout un début. Et les débuts sont pas forcément. Rien n'est parfait à la naissance. Hein. Quand on regarde ce que l'homme a fait au début, et qui continue d'ailleurs dans certaines contrées à le faire. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais. Moi, j'ai joué. Après, il y a un autre jeu que je c'est le jeu de la bague. C'est-à-dire que on est à cheval, on court dans une allée d'eucalyptus, et il y a un fil quelque part entre les arbres qui est dans le, y a un fil qui tient une bague. Et donc, les cavaliers doivent être assez habiles pour. Alors, il y a une fille qui a 15 ans à l'époque. C'est souvent le moment des fiançailles pour les familles populaires de la campagne en Argentine. Et donc les gauchos, en fait, les ouvriers agricoles, je ne sais pas comment on dirait en France, et ils participent au jeu pour avoir le droit à fréquenter pendant 15 jours, ou aller prendre un verre ou une sangria avec la demoiselle d'honneur.
C'est pas mal comme méthode, ça.
Et donc ils courent, et il y en a un qui doit mettre son doigt dans la bague, il est à la course, à cheval, et celui qui a réussi à prendre la bague... Il a gagné. Donc, et tout ça, c'est. Il y a la dompte aussi. La dompte m'a jamais intéressé parce qu'on m'a traité les animaux, souvent. Et j'aime bien la dompte plutôt douce. On devient copain avec son compagnon. Et puis, on lui apprend, on le dresse intelligemment. Et puis, on arrive à avoir des résultats incroyables. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à faire un petit peu de polo. Je ne peux pas te dire que je suis un joueur de polo, mais je suis quelqu'un qui a fait pas mal de tentatives. Voilà. Je suis tombé plusieurs fois, je me suis cassé souvent des poignets ou autre chose, mais j'ai passé de super moments, comme dans la vie, parfois avec des coups et parfois avec des moments sublimes.
Et vous jouez de la musique ?
J'aime beaucoup la percussion, mon père chantait d'ailleurs, et dans ma famille il y a pas mal de musiciens. Mon oncle jouait le violon, la mandoline, le peigne, enfin c'est comme une...
comme un harmonica ?
Comme un harmonica, oui. Et la contrebasse aussi, il jouait plusieurs instruments. Mon oncle chantait le tango, le frère de ma mère qui était à Argentine. Mon père chantait, il a chanté même pendant la guerre. Il a souvent été étendard et chantait à Marseillaise. Et à Buenos Aires, il a toujours chanté pour collecter de l'argent pour les enfants orphelins. Voilà. Et dans les radios aussi, il a chanté. C'est pour ça que j'ai mis une chanson parmi celles que... Il y a dans ma liste qui s'appelle Les Feuilles Mortes.
Oui.
Et j'aimais beaucoup quand il connaissait plus de 500 chansons par cœur. Et celle-là, quand il l'a chantée, je trouve qu'il l'a chantée très bien. Et c'était un bon interprète. Et je l'ai mis dedans.
Oui. Voilà. Alors on ne pourra pas l'écouter malheureusement parce que je ne l'ai pas trouvé.
Non, mais il aurait fallu que je puisse avoir le temps de vous la fournir. Mais je ferai ça pour votre équipe plus tard.
Mais avec grand plaisir, on sera ravis de l'écouter.
Si vous avez envie un jour de la diffuser comme ça.
Avec grand plaisir, Roberto. Il nous reste quelques minutes avant de se quitter, ça file. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne juste sur les projets à venir pour vous, à la fois professionnels et puis peut-être même personnels.
Oui. Alors maintenant, on a créé une petite cellule de concours déjà. Parce que je vois que beaucoup de choses s'ouvrent en ce moment. Nous, on a été un peu précurseurs. On voulait faire de l'architecture environnementale pour cette question de l'univers, on a évoqué tout à l'heure. Et à l'époque, on nous disait que c'était trop cher, que ça ne valait pas le coup. On avait plein d'entraves. Maintenant, tout ça, c'est un champ complètement ouvert. Et je trouve beaucoup de confrères avec qui on peut faire aussi des choses. On est en train d'amener dans notre équipe, je ne ferai pas trop de détails parce qu'on est en train de négocier avec eux, une équipe hollandaise. Et qui travaillent déjà sur l'environnement et qui ont des compétences qui sont très proches de notre idée des choses, et donc on pourra se réunir là-dessus. Et je voudrais créer un groupe de travail beaucoup plus vaste, qui réunisse des équipes européennes dans l'idée que de notre objectif, qui maintenant devient un objectif commun, pas mal de cabinets en Europe. Donc ça, c'est un premier volet. On veut reparticiper à des concours, on les a boudés pendant très longtemps, et on va revenir. On veut faire des bâtiments... on travaille sur un projet de tours qui sont associatives, des tours en réseau, de bâtiments à développement vertical qui auraient déjà on arrive à trouver les moyens de le faire, à transmettre l'énergie excédentaire qui est produite par la tour. La tour, elle s'est capable d'apporter de l'énergie, de filtrer l'air et de stocker l'eau et d'échanger avec les autres bâtiments. C'est-à-dire, c'est un réseau vivant, comme un embryon urbain qui tisserait sa toile pour guérir les villes de leurs maux qu'on connaît tous. On ne va pas rentrer dans des chiffres et la pollution et tout ça. La technique doit être au service. J'aime beaucoup le leitmotiv du Bauhaus. Il faut soumettre la technique au bonheur de l'homme. Voilà. Et donc ça, c'est mon premier projet, de travailler sur l'urbanisme, sur les projets ponctuels, etc. Les deux tours, c'est Buenos Aires. J'ai quelqu'un qui est prêt à les financer, mais le Covid et tout ça est passé par là. Il nous a ralenti. Mais on va revenir. On va nous prêter l'hémicycle à la ville de Buenos Aires pour nous exprimer face à d'autres cabinets qui ont d'autres idées. Et puis, après, du point de vue de notre travail à Paris, à plus petite échelle, on développe maintenant pour faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, des immeubles de logement. Et on invite tous les gens qui veulent, les promoteurs, les marchands de biens, tous les acteurs de la promotion du bâtiment, à travailler avec nous pour faire des choses différentes. C'est-à-dire que travailler sur cette idée de ça coûte pas plus cher, ça coûte moins cher, ça a un coût de maintenance pour les gens qui gardent leur bâtiment. Il y a des structures maintenant, ça se fait beaucoup à cause des impôts très élevés qu'il y a dans notre pays, qui est une bonne mais une mauvaise chose aussi en même temps. Et cette idée d'avoir des foncières aujourd'hui, c'est un refuge pour la capitalisation. Parce qu'avant, on gagnait de l'argent, on vendait, il ne nous restait rien. Quand on faisait de la promotion. Aujourd'hui, on garde une partie, on sait développer des outils qui permettent de donner une longue vie à des projets à long terme. Et là, on peut faire de l'environnemental, on peut faire plein de choses, parce que la maintenance, elle coûte zéro, pratiquement. C'est comme une voiture électrique. Après, il y a discussion là-dessus, sur beaucoup de choses, sur le point de vue écologique et tout ça. Mais il faut savoir qu'on ne va pas à l'atelier. Il y a zéro entretien, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, et l'architecture intelligemment conçue, elle peut non seulement avoir cette caractéristique de ne pas coûter cher à la maintenance, mais surtout travailler avec la nature et revenir les animaux que nous sommes avec tout le plaisir que ça comporte.
Vous êtes optimiste, Roberto Baltazar, par rapport justement à ce que vous avez parlé quand même de... On sent une certaine spiritualité, on sent aussi une connexion aussi avec l'univers, peut-être une certaine inquiétude, la branche sur laquelle on est assis, qu'on est en train de scier. Est-ce que vous êtes optimiste ?
Je suis un optimiste réaliste, ou un utopiste réaliste, comme dirait Roland Castro, l'utopisme réaliste. Je pense qu'on va s'en sortir, bien sûr. Comment ? Je suis dubitatif là-dessus. Quand ? Ça dépend de nous. Je pense qu'il faut être optimiste, c'est bien, mais il faut être responsable. C'est-à-dire que chacun de nous doit savoir qu'il y a des choses à faire pour que notre optimisme se confirme. Voilà.
Et progresse.
Et voilà, il progresse.
Merci Roberto pour ce très bon moment.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis d'être parmi vous. J'ai passé un moment très plaisant. Merci.
Eh ben, c'est super. On était en tout cas ravis de vous accueillir, n'est-ce pas Fabrice ?
Bien sûr, ouais, c'est toujours plaisant effectivement de prendre comme ça de la hauteur de vue, d'avoir quelqu'un qui réfléchit. C'est vrai que nous, sur nos chaînes, on est plutôt business, on est dans le concret, dans les chiffres, etc. Là, ce matin, on a eu une bouffée alors d'optimisme non seulement, mais aussi de hauteur de vue, de philosophie, de perspective.
Et ça fait beaucoup de bien. Merci encore Roberto Baltazar d'avoir été avec nous. On va se quitter sur un autre titre que vous avez choisi avec plaisir. C'est de Purcell. Ça s'appelle « Aux solitudes ». Avant de se quitter, eh bien, je vous annonce quand même la suite. À 9h, les infos. Juste après, Allo Radio Imo, comme chaque vendredi, à 11h, la semaine copro de Gilles Frémont. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle semaine de programme dédié à l'immobilier. Et vendredi prochain, eh bien, nous vous proposerons exceptionnellement une rediffusion du Mac de Limo avant de revenir le vendredi 11 juin avec comme grand témoin Bertrand Blampin qu'on sera ravis d'accueillir. Voilà pour le programme, voilà pour la matinée. Je vous laisse avec Purcell aux solitudes et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à l'écoute de Radio Imo. Sweetest choice. Ooh.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.